France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. La chasse aux PFAS, aux polluants éternels dans notre eau, détection et traitement obligatoire désormais pour 20 d'entre eux. Ça coûte cher, qui va payer? Reportage en Alsace dans un instant. À suivre encore, Courchevel en Savoie, 300 personnes évacuées après l'incendie d'un hôtel de luxe. Nous sommes sur place. Le rugbyman Rochelet Uni Antonio, contraint d'arrêter sa carrière, accident cardiaque, mais cela aurait pu être beaucoup plus grave pour lui. Une liaison aérienne qui rouvre à contre-courant Limoges-Paris, car le train accumule les galères. Nous parlerons aussi de l'Iran. Bonjour Christian Chéneau.
Bonjour.
Les États-Unis massent leurs forces autour du pays.
Oui, Donald Trump manie la carotte et le bâton. Il menace de frapper militairement l'Iran tout en laissant la porte ouverte à des négociations.
A tout de suite pour vos explications. Quand les premiers ministres du Danemark et du Groenland, héros de la résistance face à Trump, sont reçus à Paris en ce moment, nous les écouterons. À partir de 13h30, nous parlons d'une campagne électorale à nul autre pareil. À Nice, tous les coups sont permis entre Christian Estrosi et Éric Ciotti. Jusqu'où cela ira-t-il? Quelles conséquences? 01 45 24 7000 pour vos questions à nos invités. 13h50, c'est la France. 2025, année record pour les musées. Éric Fotorino du 1 Hebdo se demande pourquoi. Juste avant 14h, c'est une chanson. L'humoriste Michael Gregorio demande le groupe britannique Blur. Song 2.
Ce titre est clairement grunge, c'est presque une caricature du grunge. J'adore cette chanson, je la découvre sur un jeu vidéo qui s'appelle FIFA 98.
Ce sera avec Frédéric Pommier. Sans oublier les sorties cinéma de ce mercredi, Alexis Demeyer sera avec nous. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Pas un jour sans son alerte sur la qualité de l'eau en France. Ce matin, c'est l'ONG Génération Future qui pointe une pollution, un fongicide, un PFAS dans l'eau potable de 83 000 personnes dans les Hauts-de-France. Les autorités sanitaires sont saisies. Il se trouve que depuis le début de l'année, 20 molécules, 20 de ces polluants éternels sont désormais recherchés dans l'eau que nous buvons. Et conséquence évidente, quand ils sont détectés, il faut traiter, ce que fait le groupe Veolia, premier fournisseur d'eau en France. 25 millions de clients, 1% de ces captages se trouvent au-dessus des normes. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Vous vous êtes rendu en Alsace autour de la commune de Saint-Louis. 11 communes dépassaient les seuils. Le groupe Veolia a donc déployé une unité mobile au charbon actif.
Oui, à côté de l'aéroport de Balmulhouse, entouré de champs, 6 grosses cuves en forme de silo remplies de charbon actif filtrent désormais l'eau qui est pompée dans la nappe phréatique. Pour la débarrasser des PFAS, les taux étaient jusqu'à 6 fois la norme. Fanny Greff, directrice de Veolia pour la région Alsace.
L'eau arrive dans cette conduite, elle est filtrée dans le filtre qu'on a devant nous. Les PFAS vont venir être absorbés à la surface de ces charbons actifs. Au bout de 15 minutes, on a une eau qui est parfaitement consommable après désinfection.
L'agglomération de Saint-Louis teste ses unités mobiles par charbon actif sur 3 captages au total.
La règle, ça va être toujours de commencer par travailler à la source. Est-ce qu'on peut supprimer la pollution à la source? Est-ce qu'on va pouvoir diluer une ressource polluée avec une ressource moins polluée? Est-ce qu'on va pouvoir s'interconnecter avec un autre service? Si aucune de ces solutions ne marche ou ne suffit, le charbon actif peut être un recours pour certains types de pollution. Si ça ne suffit pas, il faudra envisager des solutions un petit peu plus complexes, de type membranaire par exemple.
Et cette solution d'urgence va être pérennisée. 3 sites en Dure vont être construits d'ici fin 2027 pour alimenter 60 000 habitants. La facture sera au total de 20 millions d'euros.
60 000 habitants, 20 millions d'euros, ça fait en moyenne 300 euros par habitant. Sandy, ce sont eux qui vont payer?
Alors autrement dit, vous me demandez si le prix de l'eau va augmenter pour les particuliers.
C'est ça.
Ce n'est pas acté. L'agglomération parle pour l'instant d'une harmonisation car plusieurs tarifs de l'eau coexistent sur son territoire. L'agglo qui a obtenu quelques aides publiques de la région, de l'État. Mais ce qui allège vraiment la facture, c'est que l'aéroport de Balmulhouse a accepté de payer la moitié de la note, car la pollution PFAS provient en partie des mousses à incendie utilisées lors des entraînements de pompiers, des mousses homologuées à l'époque qui ne sont plus utilisées par l'aéroport depuis 2017.
Donc pollueur-payeur, mais en partie seulement.
Et amicalement, apparemment.
Merci Sandy Dauphin pour ces précisions. Le feu n'est pas contenu, nous disent les autorités, à Courchevel en Savoie. Un hôtel de luxe de de la station de ski, l'hôtel Les Grandes Alpes, et depuis hier soir la proie des flammes, 300 personnes évacuées dans un hôtel voisin également, puisque les pompiers craignent désormais que des chalets à proximité ne s'embrasent à leur tour. Notre journaliste Victoire Renard de Winter est sur place aux côtés des habitants et des touristes.
Une grosse centaine de personnes est amassée sur l'esplanade juste devant l'hôtel. Habitants, skieurs, tous les yeux sont rivés sur la déconstruction du bâtiment encore sous les flammes. Le bras motorisé arrache le toit pour que les 179 pompiers puissent atteindre directement les flammes, ce qui provoque d'impressionnantes fumées, mais aussi beaucoup d'émotions puisqu'il s'agit de l'un des plus vieux hôtels de la station, m'expliquait une des habitantes. Ce bâtiment est emblématique ici à Courchevel puisqu'il est situé juste à côté des pistes. Par ailleurs, dans la station, l'eau courante des robinets n'est désormais plus potable puisque les mousses de l'incendie ont infiltré les canalisations. Des bouteilles d'eau sont actuellement distribuées ici à Courchevel.
Précision signée ici, Pays de Savoie. Le procès en appel de Myriam Jaouen s'est ouvert ce matin à Bourg-en-Bresse. Cet employé d'une crèche lyonnaise est rejugé pour avoir tué un bébé en lui faisant boire un produit de type desktop. C'était en 2022. Elle avait été condamnée à 25 ans de prison en première instance, mais l'avocat général avait fait appel car à l'époque, les jurés de la cour d'assises n'avaient pas retenu le meurtre pour désigner son geste. Il l'avait en fait qualifié de torture et acte de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Près de Lyon, une adolescente de 15 ans séquestrée et torturée. 5 suspects ont été interpellés avant-hier. Bonjour Christophe Vincent.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes notre correspondant à Lyon. Cette jeune fille était en fait hébergée dans un foyer à Annecy, mais les faits se sont déroulés à Oullins-Pierre-Bénite, tout près de Lyon.
Oui, et au terme de la garde à vue, le parquet de Lyon confirme à la mi-journée nos premières informations. La jeune fille de 15 ans, secourue lundi vers 5h du matin, avait bien été séquestrée quelques heures plus tôt dans un immeuble d'Oullins par 4 mineurs, 2 adolescentes de 14 ans, une autre de 17 ans et un garçon du même âge. Ils lui ont fait subir des sévices qui explique ses blessures, une plaie à la cuisse et son dos lacéré. Ses geôliers lui ont aussi extorqué son téléphone. Les enquêteurs ont également entendu le majeur. Il a véhiculé les 5 adolescents entre Annecy et la banlieue de Lyon. On ignore les raisons d'un tel déchaînement de violence. Une information judiciaire est ouverte pour enlèvement, séquestration avec acte de torture ou de barbarie et extorsion avec arme à l'encontre des 4 mineurs. Le parquet réclame leur mise en détention provisoire et il demande le placement du chauffeur sous contrôle judiciaire.
Précision signée Christophe Vincent. La nouvelle a accueilli le rugby français ce matin. Le joueur de La Rochelle, Ouni Antonio, 35 ans, 68 sélections en équipe de France, arrête soudainement sa carrière. C'est son club qui l'a annoncé. Antonio a été hospitalisé hier pour un accident cardiaque. Bonjour Yvan Planteil.
Bonjour.
Ce qui interroge, c'est que le pilier droit était encore sur le terrain dimanche soir. Il a même failli jouer un match de championnat avec son club face à Clermont.
Absolument, il est aux alentours de 20h30 au stade Marcel Michelin. Ouni Antonio participe à un échauffement musclé avec d'intenses mêlées. Puis on voit le joueur d'1m96, les yeux dans le vide, les mains sur les genoux. Avant de partir au vestiaire, il sera déclaré forfait de dernière minute, touché au sternum, précisera après la rencontre son entraîneur. Le pilier d'origine néo-zélandaise est hospitalisé le surlendemain pour une suspicion de problème cardiaque et le club explique finalement qu'il est sous surveillance, en soins intensifs donc, son état est stable, mais il va devoir observer une longue période de convalescence et donc contraint d'arrêter sa carrière. Ouni Antonio, c'est un joueur important de l'histoire du club, poursuit le Stade Rochelais dans son communiqué. Voilà bientôt 15 ans qu'il a rejoint les Maritimes et c'est aussi l'un des cadres du 15 de France de Fabien Galthié avec qui il a remporté le tournoi Destination en 2022 et en 2025.
Et qui va donc désormais devoir faire sans lui.
Absolument.
Récit Yvan Planteil. Les derniers chiffres sur le trafic aérien en France l'ont confirmé en début de semaine. Il y a de moins en moins de voyageurs sur les lignes intérieures, moins 20% par rapport à 2019. Voilà pourquoi l'annonce de l'ouverture dans 3 semaines d'une ligne aérienne entre Paris et Limoges a de quoi surprendre. Ce sera un vol low cost assuré par l'Espagne espagnol Volotea, 2 allers-retours par jour, sachant qu'il y a 3 ans, la dernière ligne Limoges-Paris a fermé trop déficitaire. Le problème sur cette ligne, c'est que le train ne fonctionne pas et accumule les déboires. Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
Vous avez cueilli ce matin les passagers du Limoges-Paris arrivés peu après 10h.
10h06, le train à l'heure en gare d'Austerlitz ce matin, après 3h30 de voyage, un quart d'heure de retard au départ, mais rattrapé en route. Sur les quais, Geneviève attend une personne de sa famille. Elle-même fait le trajet plusieurs fois par an, pas convaincue par la liaison aérienne.
Si un vol arrive à Charles de Gaulle ou bien à Orly, c'est vrai que ça prend quand même un certain temps. Et bon, le fait que ça arrive dans Paris, c'est quand même relativement pratique. Il faudrait qu'il aille un peu plus vite.
Très intéressés au contraire, Patricia et Armel, qui viennent à Paris régulièrement pour des formations, des réunions professionnelles, même pas besoin de les informer de cette ouverture.
Je l'ai vu pas plus tard que ce matin sur Internet qu'effectivement il y a une ligne qui va être établie.
Ça vous intéresse ?
Oui, bien sûr.
Parce qu'on est creusoise.
Voilà, on est creusoise, on n'a pas déjà beaucoup de facilité pour se déplacer.
Ça serait très arrangeant et en plus les tarifs ont l'air pas exorbitants, donc voilà, on est d'autant plus intéressés. Là, on vient pour une formation qui est que demain et c'est très très embêtant de venir un jour avant.
A priori, suivant les horaires, j'ai commencé à regarder, oui, ça serait mieux quand même.
Ah oui, vous êtes à fond, vous.
Ah oui, tout à fait.
Voilà, Chantal et Philippe, eux, tiennent à leur train. Ils s'apprêtent à manifester bientôt d'ailleurs à Limoges pour défendre cette ligne POLT.
Nous militons pour que ça aille mieux et plus vite et sans jamais de retard. Et le train nous paraît plus écologique.
Voilà, croisé aussi ce matin à la gare, un passager en partance vers l'Italie qu'un saut en avion pour en attraper un autre aurait arrangé si le tarif est intéressant.
Ouais, le POLT Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Merci Béatrice Duguay. En Dordogne, la bataille judiciaire se poursuit autour du projet de contournement de Bénac porté par le département. L'autorisation environnementale a été annulée en novembre par la justice administrative, mais l'État, par la voix de la préfecture, annonce sa décision de faire appel. Ce sera la dernière possibilité pour les oppositions de bloquer le budget de l'État pour 2026 déposé par la France insoumise. Une motion de censure sera examinée lundi prochain, sachant qu'hier, les députés ont déjà rejeté 2 motions. Le budget de la sécurité sociale, lui, pour cette année 2026, a déjà été adopté et 149.3, le gouvernement s'en est déjà largement félicité. Mais aujourd'hui, les experts qui ont regardé en coulisses ce budget s'interrogent. Bonjour Mathilde Dehimi.
Bonjour Jérôme.
Et ils ont de sérieux doutes sur son honnêteté. Vous avez des exemples ?
Oui, ils ont en tout cas du mal à refaire les calculs et ils s'en émeuvent. Pourquoi ? Parce que la copie a changé jusqu'au dernier moment, voire après le vote, ce qui alourdirait le budget de la Sécu de 700 à 800 millions d'euros. Il y a déjà une inconnue à possiblement 300 millions d'euros. Combien de couples vont s'emparer du congé de naissance ? Et donc combien cela va coûter à la Sécu ? Ajoutez ensuite une incongruité, c'est la Sécu qui va payer la baisse de notre facture d'électricité. Vous vous souvenez, l'annonce du gouvernement,
faut un coup expliquer,
de pouce de 10 à 12 euros par an. Alors cette baisse est financée par la Caisse des retraites des industries électriques et gazières. Certes, elle est excédentaire, d'où ce coup de pouce du gouvernement, mais les experts, eux, auraient préféré que ces 500 millions d'euros servent plutôt à réduire le déficit de la Sécu. Enfin, pour ficeler ce budget de la Sécu, le gouvernement a fait glisser 5 milliards d'euros provenant du budget général de l'État, qu'il faut désormais compenser autrement. Tout ça rend les experts pessimistes sur la capacité de réduire le déficit de la sécurité sociale, d'autant que la suspension de la réforme des retraites coûtera 200 millions d'euros cette année, puis près de 2 milliards d'euros les années suivantes.
Décryptage signé Mathilde Dehimi. Une prime mensuelle, 183 euros. C'était l'un des engagements du Ségur de la Santé il y a 2 ans pour les personnels des associations du secteur sanitaire et social. 730 000 salariés dans notre pays. Le problème, c'est que 53 départements n'ont pas réglé la totalité des sommes promises à l'époque. C'est la Confédération patronale qui représente ces structures qui le dénonce aujourd'hui. Ces départements doivent près de 200 millions d'euros au total.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Dans le monde d'avant Trump, une visite à Paris de la première ministre du Danemark et du premier ministre du Groenland serait passée parfaitement inaperçue. Mais ces dernières semaines, le grand public a découvert Mette Frederiksen et Jens Frederik Nielsen, tous deux devenus les visages de la résistance au président américain et à ses appétits de mettre la main sur le Groenland. Voilà pourquoi ils sont reçus à l'Élysée en ce moment. Emmanuel Macron est d'ailleurs en train de s'exprimer. Bonjour Virginie Virginie Pironon.
Bonjour.
Vous, vous les avez suivis ce matin à l'occasion d'une conférence donnée à Paris devant les étudiants de Sciences Po.
Et pour Mette Frederiksen, il faut rendre l'Europe plus forte. C'est ce qu'elle a martelé en costume violet dans un amphithéâtre bondé. Aujourd'hui, a déclaré la première ministre danoise, la chose la plus importante pour l'Europe est de se réarmer et pas d'ici 2035 comme l'a décidé l'OTAN. Selon elle, il serait alors déjà trop tard. L'ordre mondial tel que nous le connaissons, celui pour lequel nous nous sommes battus depuis 80 ans, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est fini. Ce que nous avons vu ces dernières semaines, c'est une leçon dont nous devons tirer les enseignements. Nous comprenons qu'il ne faut jamais transiger sur les valeurs démocratiques, car si vous commencez, c'est fini. Mette Frederiksen, qui fait évidemment référence à la volonté de Donald Trump de vouloir annexer le Groenland, territoire danois. Attention, il ne faut pas croire que c'est fini, dit-elle. L'épisode que nous venons de vivre doit nous aider à anticiper la prochaine crise qui viendra encore certainement de nos partenaires américains.
Je reviens à la visite officielle, Virginie. Quel est l'enjeu? De quoi est-ce qu'ils vont discuter là dans quelques minutes avec Emmanuel Macron?
Alors Emmanuel Macron qui est en train de s'exprimer, le déjeuner de travail va bientôt commencer. Il s'agit pour le président français de réaffirmer au Danemark et au Groenland la solidarité européenne et le soutien de la France, notamment sur leur souveraineté, leur intégrité territoriale. Et puis il sera sans aucun doute question également de la sécurité dans l'Arctique, alors que les exercices militaires conjoints auxquels participe la France en ce moment sont toujours en cours.
Virginie Pironon, ce matin, le président de la République réunissait un conseil de défense et de sécurité nationale pour parler des ingérences étrangères possibles lors des prochaines élections municipales et présidentielles. Le président russe Vladimir Poutine, lui, reçoit aujourd'hui l'ex-djihadiste Ahmad al-Sharré, désormais président de la Syrie. Deuxième rencontre entre les deux hommes depuis le renversement du dictateur syrien Bachar al-Assad, qui est désormais réfugié à Moscou. La Russie, qui est en train de connaître, dans son invasion de l'Ukraine, une véritable saignée. Aucune grande puissance n'a subi autant de pertes humaines depuis la Seconde Guerre mondiale, écrit un centre d'études américain sur la guerre, qui a compilé et recensé toutes les données disponibles à ce sujet. En comptant les victimes russes et ukrainiennes, Nathanaël Charbonnier, le chiffre d'au moins 2 millions de victimes, morts ou blessés, pourrait être atteint dans les semaines à venir.
Ce chiffre de 2 millions qui marque les esprits est toutefois à prendre avec prudence, car chaque camp a intérêt à sous-estimer ses bilans. On peut ajouter que le chiffre comptabilise à la fois les morts, les blessés et les disparus. Cela dit, le cercle de réflexion américain estime que Moscou a subi le plus gros des pertes avec 325 000 morts sur un total estimé à 1,2 million de victimes depuis l'invasion de l'Ukraine il y a près de 4 ans. Kiev a également subi des pertes importantes. Le conflit a causé entre 500 000 et 600 000 victimes, parmi lesquelles 100 000 à 140 000 morts entre février 2022 et décembre 2025. 2 millions de victimes militaires, mais il ne faut pas oublier les civils. Et là, c'est l'Ukraine qui est le pays le plus touché. Au total, depuis le début de la guerre, l'ONU a comptabilisé près de 15 000 civils tués et 40 000 blessés, mais là encore, le nombre réel de victimes est probablement plus élevé.
Nathanaël Charbonnier, fidèle allié de la Russie au Moyen-Orient, l'Iran qui lui fournit ses drones dans la guerre en Ukraine. Il y a un mois, débutait à Téhéran, la capitale, le mouvement de révolte, réprimé par la dictature des Mollahs. La répression qui aurait fait, selon plusieurs ONG, plus de 30 000 morts. Il y a quelques semaines, Donald Trump avait promis de l'aide aux manifestants avant finalement de se rétracter. Il a positionné ces derniers jours l'un de ses porte-avions à proximité dans le golfe Persique. On a du mal à comprendre, Christian Chéneau, vous êtes avec nous. Les États-Unis à contre-temps ?
Écoutez, avant de décider de frapper l'Iran ou pas, Donald Trump peut avoir toutes les cartes en main, pouvoir choisir toutes les options, y compris militaires. Alors, vous l'avez dit, le dispositif américain dans le golfe Persique se met progressivement en place. Le porte-avions USS Abraham Lincoln et son escorte, composés d'au moins 3 destroyers équipés de missiles de croisière Tomahawk, sont désormais sur zone. Une armada navale qui vient compléter la 5e flotte américaine, stationnée en permanence à Bahreïn et la base aérienne d'El Udeid au Qatar, agitant une épée de Damoclès, Donald Trump met la pression sur le pouvoir iranien.
Mais vous nous apprenez aussi, Christian, qu'il y a des négociations en cours sur le nucléaire iranien.
Oui, un diplomate arabe m'a affirmé que des discussions étaient actuellement en cours entre Américains et Iraniens sur le dossier du nucléaire, sans en dire plus. Tout en montrant ses muscles, Trump ne semble pas fermer la porte à la négociation avec les Iraniens. Ils veulent passer un accord, a-t-il déclaré aux médias américains Axios. Ils ont appelé à de nombreuses reprises. Ils veulent parler, ajoute le locataire de la Maison Blanche. À ce stade, le président américain s'interroge sans doute encore sur les effets d'une campagne de bombardement, alors que les pays de la région redoutent les conséquences d'un tel scénario guerrier. La Turquie lui conseille de négocier plutôt que de frapper, tandis que l'Arabie Saoudite a décidé de ne pas autoriser des opérations militaires américaines contre l'Iran depuis son territoire.
Christian Chéneau, à la frontière nord de l'Iran, il y a l'Azerbaïdjan. Là encore, la liberté d'expression y est brimée. 165e place au classement mondial de Reporters sans frontières. L'ONG qui a installé ce matin, place de la République à Paris, un conteneur, 4 mètres carrés. C'est la taille de la cellule de la journaliste indépendante Sevinç Vagifgizi pour alerter sur ses conditions de détention. Thibaut Brutin, secrétaire général de RSF, avec Alexandra Akoun.
Sevinç Vagifgizi travaillait pour un média qui est un des rares médias indépendants d'investigation qui a osé défier le régime Aliyev. Et le paradoxe dans lequel nous sommes, c'est que ceux qui enquêtent sur la corruption sont en prison, pendant que tous ceux qui se gavent de la manne des hydrocarbures se retrouvent, eux, en liberté. C'est important pour nous d'alerter sur leurs conditions de détention, parce qu'on dit les journalistes sont en prison, mais ayons conscience de l'expérience humaine, de ce que ça veut dire que d'être dans la peau d'un journaliste détenu en Azerbaïdjan. Ce sont des cellules étroites, exiguës, avec des conditions d'insalubrité qui sont réellement préoccupantes. Très peu d'organisations parviennent à passer le mur de l'indifférence. Je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait être place de la République, mais aussi à Berne, à Berlin, pour alerter les passants, pour alerter les médias et les décideurs publics sur le sort des journalistes en Azerbaïdjan.
Thibaut Brutin, le secrétaire général de RSF. Dans cette région, il y a donc des pays totalement fermés, comme l'Iran, et d'autres de plus en plus touristiques. C'est le cas d'Oman, pays qui fait face à l'Iran, pays voisin des Émirats Arabes Unis. 3 touristes français y sont morts hier au large de Mascate, la capitale. Leur bateau a fait naufrage. Bonjour Sarah Mansoura.
Bonjour.
On en sait plus sur les circonstances aujourd'hui.
Autour de 9h, heure locale, peu après le départ, le bateau s'est en effet complètement renversé à un peu plus de 2000 nautiques de la côte. Il transportait 25 personnes, des Français, dont le guide touristique et le capitaine du bateau. 3 des passagers sont donc morts. La préfecture de Charente-Maritime nous confirme que 2 d'entre eux sont un couple de Royanais. Les autorités omanaises évoquent un incident en mer, sans confirmer à ce stade s'il s'agit d'un problème technique, d'une surcharge, d'une manœuvre dangereuse ou d'un facteur météorologique soudain. Mais un des responsables de la protection civile sur place précise que les conditions météo et maritimes étaient instables hier. À l'arrivée des gardes-côtes sur zone, un certain nombre de passagers avaient déjà été secourus par des bateaux de passage. Les secours ont pris en charge des personnes choquées en hypothermie. Pour beaucoup, disent-elles, des personnes âgées. Certaines ont été hospitalisées hier pour surveiller leur état. Selon les secours, certains des passagers ne portaient pas de gilet de sauvetage à leur arrivée. La compagnie touristique qui organisait cette excursion n'a pour l'heure pas répondu à nos sollicitations.
Précision signée Sarah Mansoura. Un avocat peut-il tout dire? La question se pose dans le débat public après les propos de maître Francis Villemain. Il défend en ce moment Abdelhakim Sefrioui, militant islamiste accusé d'avoir attisé en ligne notamment la haine contre le professeur Samuel Paty. Le procès en appel de son assassinat s'est ouvert lundi à Paris. Et l'avocat a eu ces mots, je le cite, « Samuel Paty procédait à la discrimination des élèves musulmans ». Alors l'enquête n'a pas retenu cette version des faits. Et ces propos sont purement scandaleux et indécents, a dénoncé l'avocate de la famille de Samuel Paty. Bonjour Thomas Vinclair.
Bonjour.
D'où cette question aujourd'hui? Comment est délimitée et limitée la liberté de parole des avocats?
Durant une audience, les avocats disposent d'une immunité. Une immunité semblable à celle des députés, des sénateurs s'exprimant à l'Assemblée ou au Sénat devant un tribunal. Les mots, les écrits d'un avocat ne peuvent en principe engendrer aucune action en diffamation, injure ou outrage. Une liberté d'expression précieuse pour la justice.
Notre nom, c'est avocat, c'est parler pour. On est là pour dire ce que son client a à dire.
Basile Adair est avocat et ancien vice-bâtonnier du barreau de Paris.
Dans l'équilibre judiciaire, on ne peut pas intimider un avocat à raison de ce qu'il dit. Qu'importe la dureté des propos. C'est des acquis démocratiques pour laisser à ceux qui ont vocation à s'exprimer la possibilité de parler.
Mais cette liberté n'est en revanche pas sans limite.
Il peut tout dire dès lors que ça se relie directement à la défense de son client. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct avec les faits de la cause.
En clair, un avocat à l'audience peut parler d'un prévenu comme d'un fasciste dans une affaire liée à l'extrême droite. Le contexte s'y prête. Mais de tels propos ne sont pas protégés dans un simple dossier d'escroquerie, par exemple. Là, il n'y a aucun lien. L'avocat risque alors de voir son immunité levée. Les propos sont retirés de l'audience. Et il peut donc y avoir des poursuites pénales classiques pour diffamation ou injure. Une procédure disciplinaire peut aussi être ouverte par le bâtonnier. À la clé, il risque un avertissement, un blâme, voire même une suspension.
Merci pour ces explications, Thomas Vinclair. Le cinéma.
La vie, c'est comme une boîte de chocolat.
Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Nom de Dieu.
Bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour Jérôme.
Avant vos conseils du jour, l'info du matin, ce sont les films nommés pour la prochaine cérémonie des Césars. Mmh. 10 nominations, par exemple, pour Nouvelle Vague de l'Américain Richard Linklater. On peut dire, pour résumer, que ce ne sont pas les films qui ont fait le plus d'entrées qui ont tapé dans l'œil du jury.
Sans surprise, God Save the Tush et ses 3 millions d'entrées ne seront pas de la partie le 26 février à l'Olympia. Et il est vrai que Nouvelle Vague, qui s'intéresse au tournage d'À bout de souffle de Godard, n'a rassemblé que 130 000 spectateurs. Mais l'attachement, 8 nominations au César, a fait un joli parcours en salle avec près de 800 000 entrées. Dossier 137, 8 nominations également. Frôle pour sa part les 700 000 entrées. C'est pas si mal pour cette année 2025, particulièrement morne pour la production française. Et chez les comédiens, on peut mettre une petite pièce sur Leïla Bekhti et sur Laurent Lafitte pour des films Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan et La femme la plus riche du monde, qui ont eux aussi rencontré un vrai succès dans les salles.
Alors, les sorties de ce mercredi, Alexis, on commence par votre coup de cœur, la comédie française Baise en ville.
Ça, c'est du Baise en ville. Tous les banlieusards, on avait un Baise en ville comme ça. Mais ça te va trop bien.
Ouais.
Mais méga beau gosse, ça me fait trop plaisir, ce cadeau.
3 ans après le formidable Grand Paris, Martin Jova est back in business devant et derrière la caméra poursuivant son exploration de la grande banlieue parisienne. C'est lui, Martin Jova, qui interprète Sprite, ce Tanguy des années 2020, bien décidé à enfin passer son permis de conduire sans avoir l'air d'y toucher et tout en conservant un très convaincant ton de comédie. Baise en ville pose un regard lucide sur l'ubérisation de l'économie dont les banlieusards sont la principale main d'œuvre. Le film vaut aussi par la richesse de ses seconds rôles. William Lebgill, Michel Hazanavicius, Sébastien Chassagne ou Emmanuel Berco ne sont vraiment pas là pour faire de la figuration.
Un film d'animation également sur les écrans est Made in France, Les Légendaires.
Le réalisateur Guillaume Ivernel adapte la BD à succès de Patrick Sobral, un mix de fantastique et de médiéval totalement dans la veine des sagas cultes comme Le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones, mais en beaucoup moins violent puisque les Légendaires s'adressent avant tout aux enfants. Et ce film est d'ailleurs le tout premier partenariat avec notre web radio Mon Petit France Inter.
5 valeureux héros, les légendaires, s'unir pour empêcher Darkel de conquérir le monde.
Voilà, l'enjeu est résumé dans ces quelques secondes de bande-annonce, puisque les aventures un brin répétitif consistent en un combat entre nos gentils héros et les forces du mal, un peu comme il y a quelques semaines avec Avatar, toute proportion gardée en termes de budget. On retiendra ici surtout l'inventivité visuelle des scènes d'action.
Dreams du Mexicain Michel Franco, là vous êtes un peu sur votre faim.
Oui, son précédent opus Memory m'avait beaucoup ému, mais là cette histoire d'amour impossible entre une richissime quadra américaine et un jeune migrant mexicain me semble aussi vaine que manichéenne.
I came here to be with you, and I just don't want to be hiding all the time.
Fernando est un danseur étoile qui franchit illégalement la frontière entre le Mexique et les États-Unis pour rejoindre sa dulcinée Jennifer, incarnée par Jessica Chastain. Cette philanthrope, fille d'un milliardaire, est ravie d'héberger son jeune amant, mais elle cache leur relation à sa famille et à ses amis. On l'aura compris, le cinéaste Michel Franco veut ici dénoncer le racisme et les énormes différences de traitement entre ultra-riches et migrants clandestins. Dommage qu'il le fasse en mode bulldozer avec un scénario prévisible et une certaine fascination complaisante dans sa façon de filmer le luxe.
Quoi d'autre à l'affiche cette semaine, Alexis ?
Gourou, le nouveau thriller de Yann Gozlan avec Pierre Niney dans le rôle du coach en développement personnel le plus suivi de France. La Grazia, le 11e long métrage de Paolo Sorrentino sur un président italien qui doit prendre des décisions cruciales. Et Nuremberg, un drame historique qui se déroule en 1945 lors du procès du régime nazi.
Merci Alexis Demeyer pour ce rendez-vous cinéma du mercredi 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, c'est la météo de Céline Dacosta. Puis à partir de 13h30, notre gros plan sur une campagne municipale. Elle est unique en France, mais pas pour les bonnes raisons. Le duel à Nice, Christian Estrosi, Éric Ciotti. Pourquoi tant de haine? J'attends vos questions. 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton avec le champion de paraski, Jules Segers. On suit sa préparation aux Jeux Paralympiques de Milan, Cortina. 13h50, c'est la France. Et c'est une chanson, Éric Fotorino et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, Jérôme.
Éric, vous nous emmenez au musée.
Oui, Jérôme, les chiffres de fréquentation exceptionnels des musées à Paris et aussi dans toute la France disent quelque chose de notre curiosité et sans doute aussi de notre anxiété devant un monde menaçant.
Et avec vous, Frédéric, un humoriste.
Michael Gregorio, qui est en ce moment tourné avec son spectacle L'Odyssée de la Voix. Et avec lui, nous écouterons un tube du groupe Blur, tube qu'il a découvert ado dans un jeu vidéo.
Exactement, c'était FIFA, me semble-t-il. Merci à tous les deux, à tout à l'heure.
Maman, je peux regarder une vidéo, s'il te plaît?
Oh non, prends plutôt un livre. En plus, c'est les nuits de la lecture cette semaine.
Maman, je m'ennuie. Je fais jamais rien.
Psst, mais si! Il se passe toujours quelque chose sur mon petit France Inter.
Tous les soirs à 20h10, une histoire et...
Oui!
Une lecture sonore écrite et racontée par de grands auteurs.
Ah oui, j'adore les histoires.
Mon petit France Inter, la radio qui réveille ton imagination.
À retrouver sur l'application Radio France.
Dans la vie, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut débattre. Des sujets qui divisent, qui rassemblent ou font réfléchir. Mais la santé, elle, ne devrait pas faire débat. Pourtant, aujourd'hui, elle reste un enjeu pour beaucoup. Alors chaque jour, le groupe Vive agit pour que vous soyez bien soignés, bien protégés et bien logés.
Parce que la santé est un droit, le groupe Vive, groupe mutualiste de santé et de protection sociale, agit grâce à ses mutuelles et à son réseau d'établissements de soins et de logements pour que personne ne soit laissé de côté. Groupe Vive, pour une santé accessible à tous. Groupe Vive, organisme régi par le code de la mutualité.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Un peu moins de pluie pour le sud-est cet après-midi.
Oui, ça se calme. La perturbation s'évacue par l'est et stagne encore un petit peu, vers plus au nord du Grand Est à la Franche-Comté, avec encore de bonnes averses, quelques chutes de neige. Elles sont un peu moins importantes que ce matin. Et puis toujours un fort risque d'avalanche sur les Alpes du Sud, même si la vigilance est repassée en jaune. Vigilance orange maintenue en revanche sur l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan pour la crue de l'Oust. La Bretagne, où de nouvelles averses vont arriver en fin de journée, signe d'une énième perturbation pluvieuse qui touchera la façade atlantique d'ici demain matin. On note également que le ciel est perturbé en Corse avec de bonnes rafales de vent, un risque d'avalanche élevé, puis de bonnes averses sur l'ouest de l'île. Mm-hmm. Partout ailleurs, c'est plus calme avec un ciel nuageux à l'est, un petit peu plus lumineux à l'ouest et près de la Méditerranée, à l'ouest avant l'arrivée de la perturbation. Donc les nuages vont gagner du terrain en fin de journée.
Et les températures ne bougent pas?
Non, c'est stationnaire avec des valeurs de saison comprises entre 5 et 11 degrés du nord au sud, un petit peu plus près de la Méditerranée comme souvent, avec 12 à 15 degrés.
Céline Dacosta.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Un préfet qui s'invite dans une campagne municipale, c'était il y a quelques semaines à Nice. Le préfet des Alpes-Maritimes qui prend son sifflet d'arbitre et lance, je cite, un appel solennel au calme et à la sérénité aux candidats. L'État jouera tout son rôle pour faire appliquer la loi. Faire respecter les règles précises du code électoral, déclare Laurent Autiot. Dans son viseur, deux hommes qui ont tout partagé pendant des années et que désormais tout oppose. Christian Estrosi, maire de Nice depuis 2008 et soutien d'Emmanuel Macron. Et son ancien bras droit devenu rival, Éric Ciotti, allié du Rassemblement National et qui rêve de le déloger. Entre eux, tous les coups sont permis, surtout les plus bas, insultes, rumeurs, voire menaces. Alors nous allons essayer de comprendre pourquoi, dans les prochaines minutes, comprendre jusqu'où cet affrontement peut aller. Nous verrons aussi que cette élection ne se résume peut-être pas à ce simple duel. Nos invités, Fabien Fourel, bonjour.
Bonjour.
Notre confrère d'ici Azur, vous suivez ces élections pour Radio France. Merci d'être là. En ligne avec nous de Nice, Nathalie Layani, bonjour.
Bonjour.
Journaliste à France 3, Côte d'Azur, vous aussi, vous suivez cette campagne un peu particulière, il faut bien le dire. 01 45 24 7000 pour vos questions. Vous passez aussi via l'application Radio France et l'onglet Réagir. N'hésitez pas si dans votre propre commune, vous avez aussi un phénomène comparable et une campagne qui prend des proportions et qui parfois dépasse peut-être le raisonnable. Pour vous donner juste un aperçu, le message que nous a envoyé Chantal qui habite à Nice il y a quelques minutes.
Bonjour, je vis à Nice et depuis plusieurs mois, nous subissons la compétition entre les anciens amis de toujours. Ça nous coûte de l'argent. Depuis quelques mois, nos dépenses en impôts locaux ont augmenté.
Voilà le témoignage de Chantal. On va revenir sur cet aspect impôts, finances dans les prochaines minutes, mais pour qu'on ait juste une idée, Fabien Fourel et Nathalie Layani, est-ce que vous pourriez nous partager une anecdote sur un épisode de ces dernières semaines pour qu'on ait une idée de la violence de l'affrontement, Fabien peut-être?
On a déjà, par exemple, lors d'une conférence de presse il y a quelques mois, conférence de presse de la mairie de Christian Estrosi, le premier adjoint qui accroche un élu opposé de l'opposition et qui lui dit si vous attaquez les épouses, ça va mal se passer. Ça donne une idée que tous les coups sont permis à Nice pour ces élections qui arrivent.
Attaquer les épouses, ça veut dire que sur les réseaux, on a pu menacer les conjoints.
Tout à fait, menacer les conjoints.
Même les familles sont prises à partie.
Les familles sont prises à partie, tout est permis dans cette campagne. Ça fait plusieurs mois, plusieurs années que les tensions sont au beau fixe entre les deux hommes, franchement, on pourra le détailler, mais on sent bien que ça s'accélère ces dernières semaines, et évidemment on va le développer.
Nathalie Layani, un épisode de ces dernières semaines caractéristique à vos yeux?
Moi, je peux vous raconter une interview d'Éric Ciotti, par exemple, au conseil départemental, puisqu'il est conseiller départemental, où je lui demande de réagir à des propos tenus par un conseiller départemental estrosiste, et il me dit non, moi je débat avec Christian Estrosi, mais je suis pas là pour débattre avec ses sous-fifres. Et ce seul mot a déclenché des tas de réactions sur les réseaux sociaux. Le clan Estrosi s'en est emparé, a réclamé des excuses et a monté une vidéo montrant Éric Ciotti je cite, sous-fifre éternel sous-fifre, aux côtés de François Fillon, aux côtés de Nicolas Sarkozy, aux côtés bien sûr de Christian Estrosi. Et en fait, on se rend compte que chaque interview est l'endroit d'insultes, de noms d'oiseaux, et que c'est monté en épingle et que ça prend une proportion incroyable sur les réseaux sociaux.
Nathalie Layani, vous parlez de vidéos, ça veut dire que ça se passe aussi sur les réseaux sociaux ?
Ça se passe surtout sur les réseaux sociaux, puisque les deux hommes ne se rencontrent quasiment plus. Il y a quelques événements de campagne maintenant où ils se croisent, on pourra vous en citer quelques-uns, mais ils ne se rencontrent plus, ils ne s'appellent même plus par leur nom. Christian Estrosi prend bien soin de ne jamais citer le nom d'Éric Ciotti, il lui trouve toujours des petits surnoms évidemment peu sympathiques. Et ça se passe surtout sur les réseaux sociaux, notamment par l'intermédiaire des jeunes militants. Les jeunes avec Ciotti, les jeunes avec Estrosi, chacun ont leur groupe sur les réseaux sociaux et montent des vidéos parodiques, souvent cruelles, dans des formats qui reprennent souvent d'ailleurs des extraits de films. Sur TikTok, sur X, sur Instagram, c'est diffusé sur tous les réseaux sociaux.
Et l'intelligence artificielle est utilisée aussi au service des camps. On a vu par exemple Éric Ciotti grimé en Voldemort dans Harry Potter il y a quelques jours. C'était partagé par un adjoint, l'adjoint au transport à la ville de Nice. Au moment où le député Ciotti demande un hommage national pour Brigitte Bardot, c'était il y a quelques semaines, miraculeusement une photo de lui ressurgit chassant un mouflon. Elle est partagée sur les réseaux sociaux. Et ça fait
dit,
buzz.
Il n'était pas l'ami des animaux, il contrairement pas, à Brigitte voilà, Bardot, c'est ça que veut dire le camp d'en face.
C'est exactement ça. Et puis il y a ces vidéos du camp Estrosi, la Ciottise du jour, contraction de Ciotti et de Sottise, où on ressort des archives. Par exemple, le jour où Éric Ciotti disait « Je ne serai jamais aux côtés de Marine Le Pen, je suis un gaulliste », et on ressort ça, c'est la Ciottise du jour en fait.
Maintenant, ils sont alliés tous les deux. Est-ce que c'est allé, Fabien Fourel, jusqu'à la violence physique? Est-ce qu'il y a eu ça?
Je me rappelle, il y a un an à peu près, et Nathalie Layani pourra vous en témoigner, puisque c'était des images de France 3 Côte d'Azur. Renaud Muselier, proche de Christian Estrosi,
président
de la région Sud, croise Éric Ciotti au Salon des maires du 06. Il se colle à lui, comme deux boxeurs, ils sont face à face, il lui jette un regard froid et Renaud Muselier lui lance « tu vas morfler ». Et ça, c'est capté par les caméras de France 3 Côte d'Azur. Et de l'autre côté, il y a un an, au législatif, législative, un assesseur du camp Éric Ciotti donne un coup de poing au visage du président d'un bureau de vote le jour du scrutin. Éric Ciotti a condamné évidemment derrière ce geste de violence, mais je crois que ça dit quelque chose quand même de ce climat éruptif.
Nathalie Layani, un mot sur ce point peut-être ?
Oui, non, je voulais juste revenir sur la Ciotti du jour. On a interviewé récemment Léa Coradi, qui est co-responsable des jeunes avec Éric Ciotti, et elle nous a dit « Préparez-vous ». On a énormément de matière, énormément de contenu sur Éric Ciotti, parce qu'évidemment, les deux hommes se connaissent par cœur. Ils ont grandi ensemble politiquement, Éric Ciotti dans l'ombre de Christian Estrosi pendant des années. Et donc voilà, les jeunes avec Estrosi nous ont dit « On a encore beaucoup de contenu, beaucoup de matière, on va pouvoir encore s'amuser sur les réseaux sociaux ». Préparez-vous.
Puisque vous êtes allé sur cette proximité ancienne entre les deux hommes, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Nathalie Layani, comment on est passé de la complicité à la détestation en quelques années ?
La question, c'est dans cette affaire-là, qui incarne la figure du traître ? Je pense qu'il y a évidemment une ambition personnelle d'Éric Ciotti qui, à un moment donné, a voulu tracer sa propre route et donc tuer le père. Et puis, il y a eu des options stratégiques différentes, pas idéologiques, parce que je pense vraiment qu'entre les deux hommes, il y a encore l'épaisseur d'un papier à cigarette d'un point de vue idéologique.
Ils ont un programme qui est proche ? Pour les municipales ?
Sur les élections municipales, non, parce que Christian Estrosi a pris des options assez radicales, notamment en détruisant des lieux emblématiques de la ville de Nice, comme le Palais des Congrès Acropolis ou le Théâtre National de Nice, pour y construire sa coulée verte, son grand espace végétal au cœur de Nice. Il a aussi pris des options financières qui ne sont pas celles d'Éric Ciotti, puisqu'il dénonce évidemment l'augmentation des impôts à Nice. Mais sur les grandes lignes idéologiques, et c'est sur ça que ça s'est joué, à un moment donné, leur positionnement politique à l'un et à l'autre, la sécurité, l'immigration, etc., ils sont encore très très proches. En revanche, à un moment donné, Christian Estrosi a estimé qu'il fallait se rapprocher d'Emmanuel Macron et lui apporter son soutien. Dès 2017, on a senti un peu le vent tourner, mais ça s'est vraiment officialisé fin 2021-2022. Et donc, il a incarné aux yeux d'Éric Ciotti la figure du traître. Et c'était évidemment pour lui le moment pour s'émanciper de Christian Estrosi, dont on a longtemps dit tous les deux qu'ils étaient un peu la tête et les jambes. Hein, Éric Ciotti écrivant dans l'ombre les discours de Christian Estrosi dans une loyauté totale. Bon, à un moment donné, Éric Ciotti s'est dit « c'est le moment de tracer ma voie ». Jusqu'à ce jour où il a décidé de se rallier après les législatives, après les européennes, pardon, de se rallier à
Marine Le Pen,
à Marine Le Pen, au Rassemblement National, et donc à son tour, évidemment, d'incarner cette figure du traître aux yeux des estrosistes.
Je voudrais qu'on vienne maintenant sur les conséquences de cet affrontement, manifestement sans limite. Conséquences financières. Chantal, qui était avec nous tout à l'heure, nous dit que ça nous coûte de l'argent, nos impôts augmentent.
Parce que c'est le credo d'Éric Ciotti, rétablir l'ordre, c'est son slogan, rétablir l'ordre dans la rue, côté sécuritaire, et dans les comptes, parce que Éric Ciotti dit depuis le début de la campagne, depuis même avant cette campagne, que les impôts locaux ont augmenté. Il y a bataille de chiffres, parce qu'on intègre dedans ou pas les impôts métropolitains, et on dit qu'effectivement, Nice est la ville derrière Paris qui a vu ses impôts locaux le plus augmenter. Voilà, c'est cette bataille de chiffres aussi qui divise particulièrement les deux hommes, entre un Christian Estrosi qui dit « moi je n'ai pas fait flamber les impôts », et un Éric Ciotti qui l'attaque sur cette partie, sur la partie du portefeuille.
Nathalie Layani, est-ce que ça pèse aussi sur l'ambiance dans la ville de Nice ? Est-ce que dans chaque famille, par exemple, ou entre amis, on est obligé de choisir son camp, finalement ? Est-ce que ça va jusque-là ?
Oui, c'est très présent dans les conversations. Et ce qui est très étonnant, c'est que vous pouvez croiser à Nice des gens qui n'ont jamais voté, parfois même à droite, hein, et qui disent, entre Estrosi et Ciotti, moi je vais tenter Ciotti cette fois-ci, Estrosi, j'en peux. Et puis à l'inverse, des gens qui vous disent « Non mais Ciotti, c'est le RN qui arrive à Nice, c'est pas possible, ce sera Estrosi au second tour, même si on va peut-être en parler plus tard, l'hypothèse d'une triangulaire avec la gauche est possible, et que ce duel est aussi, peut aussi n'être qu'une construction médiatique, et il faut faire attention à ça, parce que la gauche existe aussi à Nice. Mmh. Mais oui, évidemment, c'est présent dans beaucoup de conversations à Nice.
Avant de parler effectivement de cette possible ouverture à gauche, Fabien Fourel, mmh. même chose, est-ce que quand on est un chef d'entreprise, quand on est un président de club de football, quand on a des responsabilités, qu'on a une personnalité de la ville, on est forcé d'aller d'un côté ou de l'autre ?
Bah oui, tout à fait, parce que toute la démocratie locale à Nice tourne autour de cet affrontement aujourd'hui, encore plus ces dernières semaines. On a vu par exemple l'UPE 06, syndicat de patrons, qui a dû sortir pour communiquer, pour dire qu'on est neutre et on ne prend pas parti, parce que l'un de ses anciens représentants, Pierre Hippolito, avait rejoint la liste d'Éric Ciotti. Vous avez parlé de Jean-Pierre Rivert, patron du gym.
Patron du club de foot.
Du club de foot de l'OGC Nice.
Qui était sur la liste, d'Éric Ciotti,
qui n'est plus sorti. Qui ne l'est plus parce que le camp de Christian Estrosi a rapidement dit qu'il y aura situation de conflit d'intérêts après l'élection. Il ne peut pas être à la fois patron d'un club de foot qui reçoit des subventions de la ville et demain adjoint d'Éric Ciotti s'il est élu maire. Donc Éric Ciotti n'a pas pris de risque et lui a demandé de quitter la liste.
Alors est-ce que c'est un duel en trompe-l'œil, Nathalie Layani ? Est-ce que ce duel laisse une ouverture à gauche ? Je crois qu'il y a 5 listes. À gauche, c'est ça, Nathalie ?
Oui, et il y en a une dizaine, Fabien, tu nous le confirmeras, oui, à Nice, oui, tout en à tout. Mais surtout, ce qu'il faut bien avoir en tête, parce que c'est vrai que cette couverture médiatique, elle est tentante, hein, les frères ennemis qui s'affrontent au municipal, ça avait failli être le cas en 2020. Ça y est, là, ils entrent tous les deux dans l'arène pour ces municipales, donc c'est tentant de réduire cette élection à ce duel Ciotti-Estrosi. Mais aux dernières élections législatives, il faut bien garder en tête que la gauche est arrivée en deuxième position dans les trois circonscriptions de Nice. En première position, il y a eu à chaque fois soit Éric Ciotti, soit un député de son parti, l'UDR, qui a donc remporté l'élection. Mais en deuxième position, il y a eu dans une circonscription LFI, dans une autre, une socialiste, dans la troisième circonscription de Nice, Europe Écologie Les Verts. Donc, il y a un vote de gauche à Nice, et cette gauche, évidemment, peine à exister médiatiquement, en tout cas au niveau national. Évidemment, dans nos rédactions locales, on fait attention à ne pas les occulter. Il a été question d'ailleurs à un moment donné, la rumeur a couru d'un débat télévisé sur une chaîne nationale, Estrosi-Ciotti. Nous, très rapidement, en interne, on s'est dit évidemment que non, ce sera un débat avec les principales listes, ou pas de débat, mais attention à cette construction médiatique qui peut aussi un peu influer sur l'élection.
Question d'Hubert, de Nice précisément, pourquoi tant de haine entre les deux ? Je pense que c'est un peu une tradition niçoise, ça ne changera jamais, Fabien Fourel.
La politique, de toute façon, à Nice a toujours été singulière. On pourrait parler des anciens élus, de Jacques Perra. On a toujours conçu la politique de manière passionnée. Peut-être aussi comme ça, d'abord, question d'hommes et de femmes et de rivalité avant de parler de politique et de programme. De toute façon, c'est comme ça. Et c'est même tellement comme ça que le préfet des Alpes-Maritimes, Laurent Autiot, a demandé à ce que la campagne soit la plus sereine possible. Il y a une charte aussi du Club de la Presse pour qu'il n'y ait pas de coup bas, ni contre les journalistes, ni entre les différents candidats. Et là, demain, les comités de quartier niçois demandent à ce que les candidats signent une charte pour que le futur maire de Nice s'engage à respecter les comités de quartier, parce qu'il y a eu des pressions pendant des années. Si vous soutenez l'un, c'est que vous êtes contre l'autre. Et si vous dites que ce qui a été fait là est bien, c'est que vous soutenez un camp plus qu'un autre. Et donc, vous avez des coups de fil qui émanent des différents camps.
Voilà, on a une idée du climat dans lequel se déroule cette campagne. On voulait en parler dans ce 13-14 aujourd'hui. Merci Fabien Fourel, ici Azur, d'avoir été avec nous. Merci à Nathalie Layani, France 3, Côte d'Azur, 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie. Notre feuilleton, nous suivons depuis lundi un jeune champion de paraski alpin, Jules Segers, 23 ans, haut savoyard. Il souffre d'hémiplégie depuis sa naissance. Il prépare en ce moment les Jeux paralympiques de Milan-Cortina. C'est dans un peu moins d'un mois et demi. C'est une figure montante de l'équipe de France et Jules Segers veut être jugé sur ses performances.
Paris 2024 a créé un engouement sur le parasport, sur le paralympisme. C'est la première fois où je me suis dit on parle plus que des handicaps, on parle de performance, on parle d'athlète, on parle de sport. Ça fait changer le regard des gens vis-à-vis du handicap et ils se disent malgré qu'il a un petit truc en plus ou en moins, il est là pour performer, pour donner le meilleur de lui-même. Et je pense que c'est ça que j'aimerais qu'on ait en tête quand on regarde les Jeux paralympique, c'est vraiment cet aspect de la performance et non seulement de la personne qui a un handicap.
J'espère
pas prendre la vitesse. Hein. Là, je suis un peu
tôt. Tu fais un virage qui n'existe pas.
Alors Jules, c'est un athlète qui est dans le groupe Coupe du Monde depuis 4 ans, qui a une courbe de progression qui a été assez, on va dire, plate pendant quelques années. Et il a vraiment eu un énorme coup de boost ces 2-3 dernières années. Alors moi, je m'appelle Thomas Frey, je suis entraîneur-chef de l'équipe de France handisport de ski alpin. Jules, c'est quelqu'un d'assez timide, assez calme, très posé, de réfléchi, qui ne va pas faire des choses sans les avoir, on va dire, minutieusement étudiées ou minutieusement discutées avec nous. Ça peut prendre un peu de temps, mais une fois que le système est compris, une fois qu'il y a les vraies raisons pourquoi du comment, ça avance bien.
Je peux être bien plus direct à certains moments.
Tu peux peut-être te profiler un peu plus aussi.
Mais je suis gentil, moi.
Au départ.
Mais il n'y a rien à faire techniquement.
T'as rien à faire techniquement, c'est juste des intentions. Et là, tu gagnes 2-3 dixièmes.
Moi, je suis Laurent Dufour et je suis technicien, je m'occupe du matériel.
Les techniciens de ski, c'est vraiment... c'est un peu le bras droit, finalement. Il faut qu'on ait confiance en eux. Moi, j'ai toute confiance, une énorme confiance en mon préparateur de ski. On évolue, on a fait évoluer plein de choses. Mais oui, sans confiance entre le technicien et l'athlète, ça peut pas fonctionner parce que finalement, c'est lui qui nous chausse au départ.
Mais avec Jules, ça passe bien, ouais, c'est vrai. On a trouvé quelque chose sur le travail, sur la façon de faire. Et puis ça, nous deux, ça fonctionne bien. Ouais. Là, je suis devant mon ski, là. Je suis en train de faire les champs d'un ski neuf. Le champ, c'est le côté qu'il y a sur le ski. Le ski, il a une face, un champ. Et le champ, c'est le côté. C'est son épaisseur, le champ. J'en apporte de l'importance. Si je veux faire le plus lisse possible, comme ça, il y a moins de glace qui peut se mettre dessus. C'est un sport centième. Donc, on essaye de faire le mieux possible pour qu'il n'y ait pas les centièmes qui partent du mauvais côté. On les aide pour plein de choses. Quand ils ont gagné ou quand ils ont perdu, les prendre dans les bras, leur faire des câlins parce qu'ils sont déçus. Voilà, puis pas qu'ils lâchent l'affaire. Donc on s'occupe pas que de leurs skis, on s'occupe aussi d'eux.
Sans des skis qui sont préparés, on peut pas skier de la même manière. Donc finalement, il a une place hyper importante dans ma réussite et dans la réussite de chaque athlète, d'ailleurs, au sein de cette équipe de France. Je préférais qu'on dise c'est fort ce qu'il fait que c'est fort ce qu'il fait avec ce qu'il a, par exemple. Oui, ça c'est sûr et certain. Même on en rigole sur ça parce qu'on a des fois des gens qui nous disent avec ce que vous avez, c'est bien ce que vous faites. Et on est à la recherche de la performance, on donne tout pour. Donc en fait, oui, on a quelque chose, mais c'est pas ça qu'on veut retenir de nous.
Un feuilleton proposé par Noureddine Zidane, réalisation Vincent Godard.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le mercredi 13h50, le regard d'Éric Fotorino du 1 Hebdo. Aujourd'hui, Éric, vous vous demandez pourquoi 2025 a été une année record pour la fréquentation de nos musées.
Et oui, après la ruée vers l'or, la ruée vers l'art, cher Jérôme, alors que l'once d'or bat des records historiques et approche les 5100 dollars, l'once de 31 grammes et quelques poussières dorées, les musées, eux, sont devenus la nouvelle valeur refuge des Français, avec une pluie de records de fréquentation pour certains d'entre eux, et des chiffres qui, étendus aux châteaux, aux grands monuments nationaux et aux collections de prestige, montrent une soif de beauté inextinguible. Alors, surprise, oui et non. Non, car l'année 2024, année olympique à Paris, avait été marquée par les mesures de restriction d'accès et les fermetures de musées afin de sécuriser la cérémonie d'ouverture, puis le déroulé des épreuves. Mais surprise, oui, car c'est un élan général de curiosité qui a fait exploser les billetteries, bien sûr grâce aux touristes étrangers, mais aussi par l'afflux de visiteurs français qui, par exemple, ont accouru pour découvrir Notre-Dame sauvée des flammes et aussi dans la foulée les cathédrales d'Amiens et de Chartres, l'Arc de Triomphe le plus populaire des monuments nationaux, le Mont-Saint-Michel ou encore la Sainte-Chapelle. Un tiret accru aussi pour le musée de l'immigration de la Porte Dorée qui n'avait jamais vu autant de visiteurs grâce à son exposition intitulée « Banlieue chérie ».
Bon, ça c'est à Paris, mais c'est vrai partout en France. À quoi on attribue cet engouement, Éric ?
D'abord à l'attraction naturelle de ces lieux d'histoire, d'histoire que sont le château de Versailles, le Louvre ou le Grand Palais ou encore le musée de l'Orangerie. Et puis la force des expositions qui ont attiré un monde fou au Mucem de Marseille grâce à la présentation des Trois Bleus de Miro prêtés par Beaubourg ou comme encore les expositions corps et âme et minima chères à François Pinault à la Bourse de Commerce, les hommages à Suzanne Valadon au Centre Pompidou et à Cézanne au musée Granet d'Aix-en-Provence ou encore à David Hockney à la Fondation Louis Vuitton.
Au-delà de la beauté des lieux et de ce qu'on y voit, pourquoi cette ruée vers les musées? Je pose cette question parce qu'on peut comparer aussi avec la fréquentation des cinémas qui, elle, a baissé de 13% l'an dernier.
Et oui, je répondrai par ce supplément d'âme et cette énergie de résistance qu'offre le contact direct avec des œuvres qui ont traversé le temps, les révolutions et les guerres, comme preuve et témoignage que la vie, malgré ses tourments, peut avoir le dernier mot. Le beau est aussi utile que l'utile, écrivait Victor Hugo dans ses Choses vues. Vous vous souvenez, Jérôme, que début septembre, à ce micro, j'avais salué l'incroyable attrait pour la vague d'Okusai au château des Ducs de Bretagne, à Nantes. 150 000 personnes s'y étaient pressées, du jamais vu, pour trouver sans doute un peu de sérénité dans cette œuvre immersive malgré sa petite taille. Un constat rassurant, les musées sont de véritables refuges pour nos esprits malmenés par les chaos du monde.
Il y a un point commun avec le 1 de cette semaine.
Et oui, je vous propose une nouvelle collection, le Musée du 1, un hors-série, où se déploie et se déploie sur une véritable affiche d'1m20 cette fameuse vague d'Okusai qui a tant marqué les imaginaires entre l'angoisse de la catastrophe et le sentiment de fragilité du monde, écrivent Maxence Collin et Martin Moget. C'est donc dans un musée ouvert en permanence que je vous convie. Quant au numéro de la semaine, ce n'est pas sans lien. Il demande comment protéger notre cerveau, écho aux maladies neurodégénératives et aux manières de les prévenir. Alors mon conseil, Jérôme, allez au musée.
Et achetez-le un, je crois même que vous êtes obligé d'en réimprimer.
Et
tellement,
oui, la grande vague,
voilà, tellement la grande vague
est en impression. Et
a
en réimpression.
Eu du succès, Eric Fotorino, le 1 Hebdo, chaque mercredi dans ce 13-14. C'est une chanson, Frédéric Pommier. C'est l'imitateur Michael Gregorio que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro.
Michael Gregorio qui est actuellement tourné avec son spectacle L'Odyssée de la Voix, spectacle qu'il donnera demain soir à Boulogne-sur-Mer, puis dimanche à Muret près de Toulouse. Et ce sont les Anglais de Blur qu'il a souhaité que l'on écoute la chanson Son Tout.
Je la découvre sur un jeu vidéo qui s'appelle FIFA 98. C'était pour la Coupe du Monde. Et j'adore cette chanson. J'aimais déjà le rock d'une manière globale. C'était la musique que les grands écoutaient quand j'étais petit. Je pense à mes cousins qui écoutaient Nirvana, Radiohead, et puis Rage Against the Machine aussi, dans un truc un petit peu plus énervé encore. Mais cette chanson, c'est la musique d'intro de ce jeu. Et j'y joue d'ailleurs avant les matchs de l'équipe de France. Et je me dis, il ne faut pas que j'encaisse de but. Et si jamais c'est le cas, la France va gagner. Donc encore aujourd'hui, je pense que j'ai une part dans la victoire de la France.
En 98
En 98, non, pas du tout. Mais voilà, c'est un peu comme ça que je découvre la chanson. Puis il y a un voyage en Angleterre aussi la même année, et c'est à Liverpool. Donc pareil aussi, c'est très connoté Beatles, football aussi. Puis voilà, c'est un peu les premiers voyages, un peu loin des parents, avec les copains, l'adolescence. Et j'écoute aussi Blur, j'achète l'album, et aussi les Spice Girls. Dans un style différent. I got my head checked by a jumbo check. It wasn't easy, but nothing is. No.
En 1997, Frédéric, pour ce tube de Blur.
Un titre dans lequel Michael Gregorio aime singulièrement la voix du chanteur Damon Albarn.
Une voix très 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 anglaise, Britpop, un son un peu légèrement saturé un petit peu quand il envoie ses sons de voix de tête, c'est très anglais pour moi. Bon, ce titre est clairement grunge, c'est presque une caricature du grunge. Mais eux, c'est beaucoup plus que ça. D'ailleurs, on voit la suite de sa carrière. Damon Albarn s'est complètement affranchi des codes de la musique. Il s'amuse avec tout, il s'amuse avec le rap. Plein de choses complètement différentes.
Damon Albarn, c'est un chanteur que vous avez imité ?
Imité, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais repris sur scène, oui, parce que justement, cette chanson, je l'adore. Et c'était un plaisir, on la joue de temps en temps en balance avec les gars.
Ça veut dire que cette chanson-là, aujourd'hui, quand vous l'entendez, elle est associée à pas mal de choses, finalement. Elle est
beaucoup
associée à ce jeu vidéo, elle est associée à ce voyage à Liverpool où vous avez acheté l'album. Elle est associée aux Spice Girls également.
Non, mais c'est vrai que c'est la découverte un peu de la musique anglaise, quoi. Mais cette chanson, elle a plein de sons, mais c'est vrai qu'elle a le parfum de l'enfance un petit peu quand même. Enfin, de l'adolescence plutôt.
Au moment où vous découvrez ce morceau-là, vous n'avez pas encore idée que vous allez devenir imitateur?
Pas du tout, je sais à peine ce que c'est en fait. Je suis attiré par le spectacle, par tout ça, mais je pense que je vais faire du droit plus tard, que je vais avoir une vie plutôt assez rangée. Ceci dit, j'ai quand même une vie assez rangée aujourd'hui aussi, de toute manière. Mais je sais pas tout ça. When I was young, it's not my problem. It's not my problem.
Au-delà même du fait qu'elle soit associée à ces moments de jeu, seule
ou avec
copains,
des amis, ouais.
Est-ce qu'elle vous apportait un truc en particulier, cette chanson-là ?
L'énergie de cette chanson est incroyable. J'ai envie de sauter, ça me donne envie de faire la fête. Je la mets, je suis de bonne humeur. Il y a des chansons qui ont ce pouvoir-là de vous rendre heureux quand vous les écoutez, de vous donner de l'énergie. Et cette chanson fait partie.
Est-ce qu'ils le savent, les joueurs de l'équipe de France qui ont remporté la Coupe du Monde, que c'est grâce à vous ?
Non. Non, j'en ai rencontré quelques-uns. J'avais dit que je jouais les matchs avant. Il faut que je mette 6 buts d'écart pour que la France gagne le match contre la Croatie. Non, je l'aurais jamais dit.
C'est le moment.
Bah, déjà, là, je l'ai dit publiquement, c'est quand même assez ridicule. Donc, ça sortira pas de France Inter.
Son tout de Blur, c'était donc Frédéric, le choix de Michael Gregorio.
Michael Gregorio, que vous pouvez retrouver dans son spectacle L'Odyssée de la Voix. Sa tournée se terminera avec 2 dates aux Folies Bergères à Paris. Ce sera les 17 et 18 février.
Merci Frédéric et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
Quel est le programme aujourd'hui ?
Est-ce que vous tremblez devant les araignées, Jérôme ?
Non, mais je connais beaucoup de personnes qui tremblent devant, effectivement.
On va parler d'arachnophobie.
Est-ce qu'on peut s'en défaire ?
Moi, oui, c'est... absolument.
Ah, bon, ben voilà, ça c'est la question qui m'intéresse.
Je spoil déjà l'émission.
Pardonnez-moi, à tout de suite dans l'interro carré.